Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Un petit bout d'histoire contemporaine aujourd'hui, comme il m'arrive de le faire régulièrement. L'histoire d'un président de la République jeune et moderne qui donne un grand coup de frais dans la vie politique. Emmanuel Macron ? Non. Valéry Giscard d'Estaing, qui remporte l'élection présidentielle de 1974 alors que tout le monde le donnait perdant en imposant un style très différent de ses prédécesseurs, qui dérigidifie l'exercice du pouvoir, qui ringardise les vieux croutons de l'UDR, qui conduit lui-même sa voiture, qui porte le costume le jour de son intronisation et pas la queue de pie. Pour débriefer cette histoire tout à l'heure, j'ai invité quelqu'un qui a couvert sa campagne et qui le connaît évidemment. Je ne suis pas allé la chercher bien loin puisque elle a son bureau à trois portes du mien. Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Christophe.
En 74, vous étiez journaliste à L'Express, c'est ça ?
Oui.
Toute jeune reporter.
Oui.
Voilà l'histoire de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1. Christophe Ondelat.
On a été injuste avec Giscard. Je ne vous parle pas de ce qu'il a fait, ou de ce qu'il n'a pas fait, ou de ce qu'il aurait dû faire, ça c'est de la politique. Je vous parle du bonhomme, du coup de frais qu'il a apporté à la politique française. Quelque part, Giscard, c'est un enfant de 68, il a voulu changer les codes, il a voulu dérigidifier, il a senti son époque. Alors oui, il parlait avec une patate chaude dans la bouche. Oui, il a gardé d'un bout à l'autre cet air aristo, fruit de son éducation. Et oui, la mise en scène de son départ, son « au revoir » était totalement ridicule. Mais au début de l'histoire, avant de prendre en pleine poire le choc pétrolier de 74, Giscard, c'était le Macron des années 70. C'est ça que je voulais vous raconter. Alors à partir de quand est-ce qu'il y pense, le matin en se rasant, et pas que ? Depuis qu'il a réalisé que le président Pompidou, dont il est le ministre des Finances, n'en a plus pour très longtemps. En mai 1973, il est allé en Islande avec lui, en voyage officiel. Il a bien vu dans quel état était le président. Et après, ça n'a fait qu'empirer. Déplacement après déplacement, conseil des ministres après conseil des ministres. Le président était à chaque fois plus bouffi à cause des corticoïdes. Maladie de Waldenström, une forme rare de leucémie. Au dernier conseil des ministres, le 27 mars, Pompidou, pour la première fois, a parlé de sa maladie. « Il faut que je vous parle d'un sujet que je n'ai jamais abordé. Je passe par des moments très difficiles. J'ai besoin de repos. Tout ça finira bien, enfin. On verra. » Et à la fin du conseil des ministres, pour ne pas perdre la face, Pompidou leur a dit « Messieurs, je vous demande aujourd'hui de ne pas attendre que je sois levé et de bien vouloir partir les premiers. » Quatre jours plus tard, Giscard d'Estaing est en week-end dans son chalet de Courchevel. L'un de ses proches le prévient.
Monsieur le ministre, il faut que vous sachiez que l'état du président est en train de se dégrader. Oui, considérablement. Il est en train de mourir, monsieur le ministre. Voilà, je voulais vous le faire savoir.
Giscard est tenté de rentrer à Paris tout de suite. Et puis il se dit, ne pas se précipiter. S'il se précipite, ça va alimenter la rumeur. Il a prévu de rentrer demain, il rentrera demain. Le lendemain, il est à son bureau au ministère des Finances, qui à l'époque est aux Tuileries. Et il fait venir quelques proches. Je vais vous donner quelques noms. Ce sont comme des Madeleines de Proust des années 70. Michel Poniatowski, Michel Dornano, Jean-Pierre Soisson, Roger Chineau, Jacques Dominati, ils sont là autour de lui.
Il lui reste combien de temps ? Disons que c'est une question d'heure.
C'est sûr ?
Oui.
Et comme s'il se méfiait des micros dans son propre bureau, Giscard les entraîne dans ses appartements.
Bon, messieurs, il va y avoir une élection anticipée. Je voulais vous annoncer que je serai candidat.
Qu'en pensent les autres en face ? Eh ben, ils sont sceptiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelles sont les chances de Giscard face à Chaban Delmas de l'UDR, le parti gaulliste ? Elles sont nulles. Absolument nulles. Depuis 1958, la France est gaulliste, il y a eu De Gaulle, il y a eu Pompidou. C'est le tour de Chaban-Delmas. Sans oublier qu'en 69, Giscard a appelé à voter non au référendum sur la rénovation du Sénat et la création des régions. Il a planté De Gaulle, qui a perdu le référendum et qui a dû démissionner. Les gaullistes ne lui ont pas pardonné. Alors rassemblez la droite, Giscard, vous plaisantez. Il va se ramasser. Le soir même, les Français sont en train de regarder les dossiers de l'écran à la télé.
Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignaloux, le médecin de M. Pompidou.
Valéry Giscard d'Estaing a 48 ans. Dans la classe politique des années 70, il passe pour un jeune homme. Il lui reste 5 semaines avant le premier tour. On enterre le président Pompidou le 6 avril au matin à Notre-Dame. Et l'après-midi même, alors qu'à l'Assemblée, on est en train de prononcer l'éloge funèbre du président, Chaban-Delmas annonce sa candidature par une dépêche de l'AFP qui tombe à 16h09. Dans la foulée, Giscard lui envoie un petit tacle bien senti. Aussi longtemps que ne sera pas achevé l'hommage public, national et international rendu à la mémoire de Pompidou, je m'abstiendrai de tout commentaire. Le lendemain, Giscard s'envole pour Chamalières, dans le Massif central. Et c'est pendant le vol qu'il rédige le texte de sa candidature. Seul. Le soir, il dort chez lui à Chanona, et le lendemain matin, 8 avril, il prend le volant de sa Renault 6, direction Chamalières. C'est sa ville depuis 7 ans, c'est dans sa mairie qu'il fait son annonce, les mains bien croisées devant lui.
Il y a moins d'une semaine, disparaissait le président Georges Pompidou. J'ai pensé, je pense encore, que ceux qui s'inspirent de sa mémoire devaient s'associer au deuil du peuple français avant de se préoccuper de sa succession. Je m'adresse à vous aujourd'hui, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République française.
Pour la suite, rien n'est prévu. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de programme, rien. Mais c'est une élection anticipée. Alors la règle est la même pour tous, il faut improviser. C'est dans l'avion du retour que le reporter Raymond Depardon convainc Giscard de se laisser filmer pendant toute sa campagne. Autour d'une coupe de champagne, avec un argument très séduisant. Monsieur, je crois qu'il faut faire un film de votre campagne. Vous savez, je pense au film qui a été réalisé pendant la campagne du président Kennedy aux États-Unis. C'est ça qu'il faut faire. La seule évocation du nom de Kennedy suffit à convaincre Giscard. Kennedy, c'est son modèle. Il l'a rencontré en 1962 et il dira plus tard, c'est le plus beau souvenir de ma vie. C'est son modèle. On est le 8 avril. Le premier tour a lieu dans moins d'un mois. Le jour même, François Mitterrand sort lui aussi du bois. Il sera le candidat de la gauche, de toute la gauche, y compris les communistes et les radicaux, avec lesquels il a signé un programme commun. Mitterrand a été 11 fois ministre et 3 fois secrétaire d'État sous la 4e. Il était déjà candidat en 1965. Il a de l'expérience. Ça peut être son tour.
Sans vous, rien ne serait possible. Je veux dire sans vous, expression de dizaines et de dizaines de milliers de militants, expression de millions de Français qui veulent que le socialisme porte témoignage dans cette bataille. Vous voulez que je sois candidat, eh bien, je le serai.
Le lendemain, le 9 avril, le Premier ministre sortant, Pierre Messmer, lance un ballon d'essai. Il en serait bien, lui aussi. Mais
devant la situation créée par plusieurs candidatures de la majorité de Georges Pompidou, En raison des risques qu'une telle division fait courir à la France, je suis résolu à me présenter au suffrage des Français si ces candidats se retirent. Je le leur demande.
Et là, Giscard la joue fin stratège. Il annonce qu'il se retire si Chaban Delmas en fait autant. Et comme Chaban n'a aucune intention de se retirer, Mesmer est obligé de remballer sa candidature. Le jeu s'éclaircit. Dans le prochain chapitre, entrée en scène d'un certain Jacques Chirac, jeune ministre de l'Intérieur. C'est bien connu, quand on veut grandir, il faut tuer le père. Et c'est là qu'entre en piste un jeune loup du gaullisme, un certain Jacques Chirac, ministre de l'Intérieur du gouvernement sortant. Chirac piaffe d'impatience et il n'est pas dans le cercle des vieux barbons qui entourent Chaban. Si Chaban gagne la présidentielle, il n'a pas grand-chose à attendre, les vieux croutons du gaullisme ne lui feront pas une place au soleil. En revanche, il connaît bien Giscard. Il a été son secrétaire d'État au ministère de l'Économie et des Finances pendant 2 ans. Ils se sont vus juste avant la déclaration de candidature. Ils ont noué un pacte. Chirac va lui apporter une partie des gens de l'UDR. Le 13 avril, Chirac publie ce qu'on a appelé l'appel des 43. 4 ministres et 39 parlementaires de la majorité sortante qui appellent non pas directement à voter pour Giscard. Non, c'est plus fourbe que ça. Ils appellent à une seule candidature à droite. Et dans les faits, ça revient à plomber Chaban Delmas. À part ça, je vous l'ai dit, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de plan. Giscard décide d'en faire un atout. Il en profite pour rompre avec les campagnes précédentes où tout donnait l'impression d'être préparé, calculé, il n'y avait rien de naturel. L'installation de son quartier général de campagne au 41 rue de la Bienfaisance dans le 8e est une première illustration du style Giscard. Il met sa fille, Valériane, et sa femme, Anémone, au turbin. On les voit à la télé en train d'aménager les locaux. Sa communication d'ailleurs va beaucoup jouer sur sa famille. Un dimanche d'avril, un photographe de Paris Match le prend en photo avec sa fille Jacinthe dans les jardins des Tuileries. On ne voit pas le visage de la jeune fille, elle regarde son père. C'est tout.
Je pense qu'on devrait utiliser cette photo pour une affiche. Ça va toucher les familles et les jeunes. Ça ne peut être que bénéfique, non ?
Il obtient ce qu'il veut. La photo est flanquée d'un slogan « La paix et la sécurité ». Il y aura une deuxième affiche plus classique, genre photomaton, barrée du slogan « Un vrai président ». Mais c'est la première affiche qui va marquer les esprits. Et puis pour ces meetings, Giscard fait un choix audacieux. Il choisit comme hymne un chant révolutionnaire qui avait déjà fait la joie de Robespierre. Le chant du départ.
C'est moi qui l'ai choisi, c'est un chant superbe, c'est un chant révolutionnaire. Et c'est le chant que je chantais quand j'étais dans la première armée, puisque nous chantions ce chant. Et je vous signale qu'il y a un passage qui est le bon, qui est la victoire en chantant, nous ouvre la barrière.
En chantant, nous ouvre la barrière, la liberté de nos pas, du nord au midi, la
Giscard a compris quelque chose. La France est dirigée depuis 1954 par les gaullistes. Mai 68 est passé par là. Les Français veulent du changement, mais pas un bouleversement. Alors il se choisit un slogan. Le changement, mais sans risque. Le changement sans faire peur. Giscard annonce bien 2 ou 3 mesures. Il légalisera l'avortement et il portera la majorité de 21 à 18 ou 19 ans. Mais pour le reste, pour l'économie, ce sera la continuité. Ça rassure. Mais c'est le style qui va faire la différence. Dans ses déplacements, Végeux casse les codes. De Gaulle et Pompidou étaient inaccessibles. Lui, au contraire, joue sur la proximité. Alors avant et après les meetings, il écarte les conseillers et il se laisse embarquer par la foule. Il signe des autographes et parfois, il conduit lui-même sa voiture, sa R6, une voiture sans chichi. Et c'est comme ça qu'il prend l'avantage sur Chaban, qui passe pour le candidat de la vieille garde. Du coup, il attire les vedettes. Johnny Hallyday, par exemple, vient un jour à son quartier général parisien avec Daniel Gilbert et Chantal Goya pour offrir du muguet à Anémone. Et un t-shirt est édité, barré du slogan « Giscard à la barre » et Brigitte Bardot s'affiche avec. Le soir du premier tour, Giscard est de retour à Chamalières, là où tout a commencé.
4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, il est 20h. Giscard l'emporte pour la seconde place devant Jacques Chaban-Delmas. Le classement, premier François Mitterrand.
Premier François Mitterrand, 43,5. Deuxième, Valéry Giscard d'Estaing, 32,5.
Chaban est sorti avec 13% des voix seulement. Mais pas d'explosion de joie chez les Giscardiens au soir du premier tour. Hein. Mitterrand est devant, et bien devant. Il peut gagner.
Avec près de 44% des suffrages exprimés dès le premier tour de scrutin, j'en suis exactement au point où se sont trouvés avant moi le général de Gaulle en 1965 et Monsieur Pompidou en 1969, qui furent, comme on le sait, élus au deuxième tour. Les conditions du succès sont d'ores et déjà réunis.
Le lendemain du premier tour, Giscard retrouve son carré de fidèles dans son bureau du ministère des Finances. Et la caméra de Depardon enregistre un débat stratégique passionnant.
C'est une élection qui est pratiquement gagnée si on ne fait rien. L'ennui, si on fait quelque chose, c'est qu'on peut la perdre. Parce qu'on prend des positions, on énerve des gens, on se déplace d'un sens ou dans l'autre. Donc il y a au fond une technique d'abord que serait à ne rien faire de beaux discours, etc., à laisser le courant passer, ce qui est rassurant, il est très convenable, il est gentil, il parle bien, voilà. Première solution. Et faire une campagne assez de généralité, généreuse et pas trop engageante. Et au fond, on est élu dans ce cas-là. Alors, il y a à mon avis une erreur mortelle, c'est de laisser peindre ma campagne aux couleurs de l'UDR.
Pour la première fois, un débat va être organisé à la télé entre les deux tours. Giscard face à Mitterrand. Pour Valéry Giscard d'Estaing, vous l'avez compris, c'est risqué. C'est très risqué. Le débat a lieu le 10 mai 1974 au studio 101 de la Maison de la Radio, dans un décor marronnasse, arbitré par Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel. Par tirage au sort, Giscard a obtenu le droit de commencer, Mitterrand conclura. Et ce débat est marqué par une audace de Giscard.
D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas.
Sûrement pas.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres.
Par cette formule, Giscard marque un point. Et dans la foulée, il pousse son avantage.
Si je suis élu, je proposerai au plus exactement, le gouvernement proposera à l'Assemblée nationale le droit de vote à 19 ans. Et les Français auront un gouvernement composé d'hommes et de femmes jeunes et en majorité nouveaux, pour conduire avec hardiesse le changement et pour préparer la France des années 1980.
À la veille du deuxième tour, Giscard et Mitterrand sont au coude à coude dans les sondages. Le 17 mai, dernier meeting de Giscard à la porte de Versailles, devant 100 000 personnes. Et c'est Charles Aznavour qui entonne l'hymne de la campagne. Mais, en fin d'après-midi, Giscard attend les résultats seul, dans son bureau du ministère des Finances, au Louvre. La scène est immortalisée par la caméra de Depardon. Giscard a sorti un fauteuil sur le balcon de son bureau. Il a une petite radio sur les genoux. Il écoute Europe 1. La télévision est allumée, le chien est là, couché, un tourne-disque joue du malheur. On annonce une participation record de 87%. C'est Jacques Chirac qui lui annonce par un coup de fil les premières estimations qui le donnent gagnant. Giscard s'installe devant la télé. Il s'agace du fait que Michel Dornano soit sur le plateau. Il lui avait demandé de ne pas y aller. Et puis, il est 20h.
Ont obtenu M. Valéry Giscard d'Estaing 13 165 000 suffrages, soit 50,71%. M. François Mitterrand 12 791 000, soit 49,28%.
Les estimations sont trop serrées, on ne peut pas encore se réjouir. Sur le plateau, Dornano enfile les perles et Giscard le trouve assommant et pénible. Alors il change de chaîne et pendant quelques instants, il regarde un film. Et puis il s'en va, il est toujours tout seul. Au volant de sa voiture, une 504, il rejoint son quartier général. À l'arrivée, les gens passent leurs mains par la portière. Pour le toucher, pour le féliciter, il n'a aucune protection. La portière que finalement, il n'arrive pas à ouvrir. Alors il sort par le côté droit. Valéry Giscard d'Estaing est investi le 27 mai. Il arrive à l'Élysée à pied, en costume de ville. Et ça, c'est une première. Tous ses prédécesseurs portaient la jaquette à queue de pie. Voilà, j'ai choisi d'arrêter mon histoire à ce moment-là. On aurait pu continuer comme ça jusqu'en 1981 à raconter son septennat qui sera marqué par la crise économique de 74 qui va ruiner évidemment tous ses espoirs. Je suis avec Catherine Ney pour le débrief de cette histoire. Catherine, à l'époque, vous n'êtes pas encore à Europe 1, vous êtes à l'Express, vous êtes une jeune journaliste et vous êtes affectée à la campagne de la droite. Vous l'avez donc couverte, cette campagne. Est-ce que, comme moi, vous trouvez qu'on a fait un mauvais coup à Giscard par la suite, en oubliant l'homme moderne qu'il avait été, pour ne retenir finalement que le défaitiste qui, en 81, s'en va avec ce fameux au revoir parfaitement ridicule et cette chaise vide si longtemps vide.
Oui, mais enfin là, parce que vous ne retenez que le mot de la fin, qui est son départ un peu ridicule par la mise en scène. Mais il ne faut pas oublier que les premières années, au moins pendant 2 ou 3 ans, il avait une presse qui lui était très favorable et on loue au contraire, ce jeune homme, il était d'ailleurs, pendant 2 ans, il a été plutôt très populaire dans les sondages. Mais je veux dire, d'abord, la grande différence, c'est que Giscard a été élu, mais vraiment de 326 000 voix sur 26 millions de voix. C'est-à-dire que c'est pas un raz-de-marée, hein, oui, du tout.
C'est ric-rac.
C'était vraiment ric-rac et qu'il n'y a pas eu une explosion. Enfin, dans son corps, il y a eu une explosion de joie, mais pas du tout dans le pays. Et je crois que les gaullistes, beaucoup de chabanistes, se sont pas rendus aux urnes, voire ont voté. François Mitterrand. Ah oui, parce que la campagne avait été vraiment trop désagréable vis-à-vis de Chaban, qui lui-même a fait une très mauvaise campagne, ne s'était pas plus préparé que Giscard. Ce qui a été catastrophique, c'est que lorsqu'il est venu à la télévision avec Malraux, dont on ne comprenait pas qu'il sortait des borborings et qu'il levait les yeux au ciel et qu'il ne donnait pas une image de rajeunissement de la politique, si vous voulez. Donc, c'est vrai qu'après avoir eu pendant 5 ans un président malade, tout d'un coup, on voyait cet homme jeune. Un corps est arrivé à l'Élysée, si vous voulez, quelqu'un qui se montrait en chemise, qui bouge, qui était joyeux et qui voulait incarner, eh bien, vraiment cette nouvelle génération, comme il disait, je veux comprendre mon époque, moderniser, et ce qu'il souhaitait, c'est une société libérale avancée et gouvernée avec 2 Français sur 3. C'était un peu, il ne voulait sortir de l'UDR, hein, parce qu'il disait, c'était la droite un peu trop étatiste et bloqué, et lui, il espérait faire une sorte d'en marche, c'est-à-dire que c'était Pogna qui recevait Mauroy en espérant le offrir un poste de ministre, qu'il a d'ailleurs refusé. Il voulait ouvrir seulement Giscard, à la différence de Macron, il lui a manqué un courage, c'est-à-dire que quand vous venez d'être élu, si vous voulez avoir une majorité, eh bien, il faut convoquer, faire des élections législatives anticipées.
Lui, il garde l'Assemblée nationale
lui,
de Pompidou.
Lui, il garde l'Assemblée nationale de Pompidou, qui est quand même pas du tout, qui lui est pas du tout favorable, parce que la majorité, le gros de la troupe, il y a 140, je vais vous dire exactement combien, enfin, les républicains indépendants sont 51 ou 55.
Ça, c'est son parti.
Ça, c'est son parti qui est tout petit, et l'UDR, ils sont 174. Donc, il n'a pas la majorité. Mais lui, il a cru qu'il pouvait compter sur Jacques Chirac giscardiser l'UDR. Ça, c'est vraiment une erreur de calcul, et d'autant plus que ça serait difficile, parce que si Giscard avait voulu giscardiser l'UDR, eh bien, au moins, il aurait dû avoir quelques mots doux pour cette troupe qui venait de perdre Chabannes, qui venait de perdre le pouvoir, qui venait de sortir des arènes du pouvoir après, depuis De Gaulle, depuis 58. Ils avaient toujours eu tout, absolument.
Et donc, il les méprise.
Au lieu de ça, il les méprise. Et Pogna passe son temps en disant, dans quelques jours, dans quelques mois, l'UDR n'existera plus, il faut dératiser l'Assemblée nationale. Donc, il leur parlait comme ça. Donc, il s'est fait des ennemis d'emblée. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu ce sens tactique que Macron a sûrement, en revanche.
Alors, ce qui est frappant, c'est la solitude, tout de même, de Valéry Giscard d'Estaing. Il écrit lui-même sa déclaration de candidature, tout comme, d'ailleurs, à la fin de l'histoire, il sera seul à attendre les résultats dans son bureau. On a l'impression qu'il n'y a pas une équipe autour de lui pour bâtir une stratégie. C'est un homme qui joue seul sa peau face aux électeurs.
Bah écoutez, ça, c'est la moindre des choses que ce soit un président qui écrive seul sa déclaration après une élection et qu'il s'enferme pour réfléchir à ce qu'il va dire, parce qu'il n'était pas seul du tout. À la différence de Macron, lorsqu'il a quitté
le gouvernement
en disant « je m'en vais sur une embarcation frêle », c'était vrai, il avait 3 députés avec lui et il lançait des jeunes dans le pays pour dire « voilà, venez avec nous ». C'était quand même très audacieux. Tandis que Valéry Giscard d'Estaing, il a d'abord ce groupe de républicains et indépendants qui lui sont fidèles, même si certains étaient plutôt pompidoliens. Et puis il y a ce groupe que vous avez cité tout à l'heure avec Pogna, Dornano, Chino, qui étaient vraiment des fantassins très très, puis des chefs de guerre très dévoués et prêts à tout pour lui. Et il n'était pas seul.
Alors le cas de figure de cette campagne électorale est intéressant parce qu'il ne s'est jamais renouvelé pendant la 5e République. Le président est mort, on a 5 semaines pour élire un nouveau président de la République. Donc là, il n'y a pas
de temps. Alors Chirac, qui était à l'intérieur, avait fait repousser d'une semaine le premier tour pour donner une semaine de plus.
D'accord. Mais donc, il n'y a pas le temps, au fond, d'élaborer un programme. Ça n'est pas un débat politique qui s'instaure. C'est un débat d'hommes, quoi. Ce sont des hommes face à face.
Oui, avec quand même des intentions. Ce qu'il voulait, c'est construire une société libérale avancée, quand même, sur le plan des mœurs, avec la majorité à 18 ans, l'avortement. Il avait déjà annoncé quand même beaucoup de choses. On voyait qu'on entrait dans une nouvelle ère. D'ailleurs, Il disait, une ère nouvelle va commencer. Non, il avait sûrement réfléchi. Puis comme ministre des Finances, qu'il avait été du temps de Pompidou, et puis là, depuis que Pompidou était à l'Élysée pendant 5 ans, mais quand même, il avait une vision de ce qu'il fallait faire pour l'économie. Il y avait eu le krach pétrolier en décembre 73, et du coup, le pétrole avait augmenté le prix avait quintuplé, et l'inflation galopait, et il a été élu en commençant par un programme de redressement, c'est-à-dire en serrant le kiki à tout le monde et notamment en faisant des impôts pour les entreprises, ce qu'on n'attendait pas d'un libéral avancé, parce que là c'était plutôt un libéral reculé. Et d'ailleurs, au bout d'un an, il a changé pour faire un plan, à la demande de Chirac, de faire un plan de relance. Voilà.
Plus classique. Ouais. Alors sur le papier, rappelons que on ne lui donne aucune chance quand même. Vous vous souvenez de ce moment-là?
Oui.
On dit Giscard ne peut pas rassembler la droite.
Il ne peut pas rassembler la droite parce que d'abord il avait été un cactus, c'est-à-dire le 8 mai pendant toute la période pompidolienne et de gaulliste. C'est lui qui a dit au pays ne votez pas pour le référendum du général de Gaulle. Donc il n'avait pas une attitude très rassembleuse. Mais il faut dire que la défaillance de Chabannes, on s'est aperçu très vite qu'il n'était pas à la hauteur. L'acharnement que mettaient Pierre Juillet, Marie-France Garraud, les conseillers de l'Élysée, qui depuis 5 ans, chauffaient à blanc Chirac pour le convaincre convaincre que Chaban n'était pas un homme d'État. Et puis Mesmer, qui aurait peut-être été un bon candidat, j'en suis pas sûre du tout, mais qui s'est décidé un jour trop tard. Donc c'était Mitterrand qui avait dit, il a fait son 18 juin, 19 juin, c'était trop tard. Donc la voie était ouverte pour Giscard, qui a quand même fait une bonne campagne. Et c'est vrai qu'après, je crois ce qui a beaucoup joué, c'est qu'après avoir vu pendant 5 ans ce président Pompidou, qui avait été tellement admiré quand il était à Matignon, mais là, le voir se défaire physiquement, cet homme qui souffrait, qui était envahi par un traitement, enfin la cortisone, enfin qui faisait peine à voir, de voir tout d'un coup ce jeune homme qui avait 48 ans, flanqué flanqué d'un premier ministre qui en avait 41, c'était quand même esthétiquement, c'était un nouveau style au pouvoir qui séduisait au moins les jeunes.
Parlons deux mots sur Chaban Delmas, qu'on a un peu oublié, pour dire la vérité. Normalement, il aurait dû être président de la République. Ce coup-là était pour lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Mais moi, je crois d'abord qu'il ne s'est pas préparé. Et la dernière fois qu'il avait vu Pompidou, c'était peut-être un mois avant sa mort. Pompidou l'avait convaincu qu'il irait à Cajarc, il avait une grippe et qu'il irait mieux. Et puis, en plus, Chaban, c'était quelqu'un qui n'était pas, qui avait eu l'intuition de la nouvelle société, mais grâce à ses conseillers Jacques Delors et Simon Nora, mais disons que c'était pas quelqu'un qui travaillait beaucoup.
Il était un peu dilettante.
C'était un homme solaire qui était heureux dans sa vie privée, qui jouait au tennis, qui profitait de la vie et qui n'était pas un foudre de guerre. Et je crois que ça a beaucoup joué. Les Français, pendant la campagne, très vite, quelquefois, on entendait des interviews sur RTL, sur Europe, on disait qu'ils ne connaissaient pas les sujets. Hein.
Ça, franchement.
Oui, quelquefois, non, il était pas, il a raté sa campagne. S'il avait été très bon, peut-être aurait-il été élu.
Faute de mauvais goût de se présenter alors que le cadavre de Pompidou est encore tiède.
Non, oui, bien sûr, mais en fait, il y avait un hommage à l'Assemblée nationale qui était dite par Edgar Faure, le président de l'Assemblée nationale.
Oh, ça nous fait du bien d'un temps. Le nom d'Edgar Faure,
oui, et dès que le discours a été terminé, eh bien là, parce qu'on avait averti Chaban que Mesmer allait se présenter dans la soirée, lui s'est dit, il faut que je m'avance, et il s'est présenté. Du coup, Edgar Faure s'était présenté dans la soirée lui aussi.
Alors il faut qu'on parle de cette mise en scène de sa famille qui est tout à fait nouvelle en France. Jamais aucun homme politique n'avait mis en scène comme ça sa famille. La photo de campagne, c'est lui avec sa fille. D'ailleurs, personne n'a jamais plus osé faire ça à côté.
Ben oui, mais enfin, il était fier de sa famille. C'était la première fois. C'était un peu, il inventait gala avant gala.
Oui.
Bon, et on a vu dans Match la campagne avec Madame Giscard d'Estaing que l'on voyait dans sa cuisine avec une poêle neuve qu'il n'avait jamais servie, comme si elle faisait la cuisine, et on faisait croire que c'était la mère au foyer, alors qu'on savait très bien qu'elle était servie et tout ça. C'était une mise en scène de la belle famille avec quatre enfants.
Assez qui portaient tous des noms de fleurs.
Qui portaient, oui, Jacinthe, Anémone, enfin tout ça, et puis je sais plus, oui. Voilà, et tandis que Chaban...
Valériane,
voilà. Et tandis que Chaban se faisait photographier avec sa femme, Micheline, et là, alors il était d'abord divorcé trois fois, et sur un parcours de golf, où elle levait les bras, montrait son nombril, dont les Français disaient, ah ben, il y en a une qui est au foyer, qui fait la cuisine, et l'autre qui... Voilà. Donc c'était des images comme ça, si les Français ne comprenaient pas, tout était fait pour qu'ils comprennent que d'un côté, il y avait la continuité,
La France éternelle,
mais jeune
et moderne.
Voilà.
Il y a tout ce passage où c'est le premier président de la République à aller au contact avec les Français. Il prend des bains de foule sans protection, sans sécurité, sans barrière. Il va voir les gens. Il se fait happer en fin de meeting. Quelquefois, il passe une demi-heure à signer ses petites affichettes de campagne. Et il a l'air d'aimer ça. C'est la première fois qu'on voit ça.
Oui, mais Jacques Chirac avait innové aussi en Corrèze, si vous voulez. À l'époque, les candidats, alors les ministres se promenaient avec très très peu de sécurité derrière eux. Donc, et Giscard, ben oui, parce qu'il aimait ça, se faire... il était. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de crainte, on n'avait pas peur du terrorisme, on n'avait pas cette crainte.
Ça, c'est quand même frappant.
Et Giscard partait lui-même, conduisait sa voiture, d'ailleurs, quelquefois disparaissait plus une nuit, on disait... après qu'il avait eu des ennuis, qu'il était entré dans un camion de laitier à l'aube, on ne savait pas. Enfin, donc, il était très libre, il menait une vie très libre, de même que quand il était ministre des Finances, lorsqu'il mettait à l'entrée de son bureau une lumière rouge, comme dans les blocs opératoires, ça voulait dire défense d'entrée, quelquefois la lumière restait rouge pendant 3 jours et personne n'avait le droit d'entrer. Est-ce qu'il était là, est-ce qu'il n'était pas là? Il a toujours fait ça, Giscard, il a continué, mais c'était l'époque qui l'autorisait à avoir cette conduite, ce qui est absolument impossible aujourd'hui.
Ce qui est très frappant, c'est le soir de son élection, il part de son ministère avec sa voiture qu'il conduit, il n'a aucune protection, il s'arrête pour prendre Poniatowski au coin d'un boulevard, Via Michel monte, et ils arrivent au quartier général, et les gens mettent toutes leurs mains dans la voiture, le touchent, lui touchent les vêtements, lui touchent la cravate, et lui il est souriant, il n'y a aucune protection.
Mais oui, mais c'est là où on voit qu'on a changé d'époque.
Alors, il y a un passage qui est très très intéressant, que nous révèle le documentaire de Raymond Depardon, dont il faut dire, parce que ça j'ai pas raconté la fin de l'histoire, que Giscard ne voudra jamais que ce documentaire passe, et que donc il n'est passé qu'il y a quelques années, Depardon l'a gardé sous le coude, sans jamais le diffuser jusqu'à...
Et vous savez pourquoi? Parce qu'il tient des propos très désagréables à l'égard de Michel Dornano.
Oui.
Voilà, c'est ça. Et je le trouve parfaitement injuste et désobligeant pour quelqu'un qui est d'une fidélité, d'un dévouement extraordinaire. Il était gêné d'avoir dit ça.
Ouais. Il était gêné, mais alors il passe son temps à pester contre Dornano le soir
qui
de...
Qui ne le méritait pas.
Qui ne le méritait pas. En tout cas, il y a ce moment de réflexion stratégique où ils sont là et où il dit, au fond, je suis sur le point de gagner, il faut que je fasse rien. Si je fais quoi que ce soit, je risque de perdre. Il faut que je fasse une campagne bénie, oui.
Oui, il dit ça, mais à la fois, il annonçait quand même qu'il allait dépoussiérer la France. Et il a quand même fait des choses qui ont... Il n'y a pas eu des gadgets. Il n'y a pas eu que le fait que le premier 14 juillet ne s'est pas passé sur les Champs-Élysées, mais boulevard Beaumarchais. D'ailleurs, c'est arrivé qu'une seule fois, il n'a pas recommencé.
Le premier 14 juillet,
Giscard. C'est boulevard Beaumarchais, oui.
Et pourquoi? Pour changer.
Parce qu'il est pour changer. Changer pour changer.
Le changement.
Mais enfin, dans les 2 ans qui ont suivi, il a fait beaucoup de réformes pour les femmes, pour vraiment moderniser la société. D'ailleurs, il y avait tellement de réformes, il disait, moi, la réforme sera ma guerre d'Algérie. Et alors, surtout, il disait, je gouvernerai directement avec les ministres, un peu comme Macron, mais en squeezant complètement Chirac. Et c'est de là aussi qu'est parti le malentendu, parce que Chirac, il disait, alors, qu'est-ce qui me reste? Il faut au moins que je sois le chef de la majorité. Alors,
c'était un peu façon Sarkozy, quoi.
Non, c'est pas du tout le même genre. C'est-à-dire que dans le fond, Sarkozy, si vous faites référence à Fillon, il s'est écrasé. Oui. Il a eu une audace en disant « je suis à la tête d'un État en faillite » et après, il disait plus rien. Quoi. Oui. Donc s'il avait eu du caractère, il aurait pu dire « je démissionne », tandis que Chirac, il a menacé plusieurs fois de démissionner parce que ça ne lui convenait pas.
Oui.
Non, il
ne
faut pas mélanger les choses, ça n'a rien à voir.
Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand. Vous ne l'avez pas. C'est un coup de génie, ça. Il l'a préparé tout seul, à votre connaissance?
Non.
C'est
de la com, mais ça, c'est le génie de quand on est inspiré, quand... il a eu ce coup de génie. Et puis, le coup de génie d'après, ça a été Mitterrand qui lui a dit « Vous êtes un homme... Si moi, je suis un homme du passé, vous êtes un homme du passif. » Et tchouk, là, c'était la réponse du berger à la bergère.
Il venait d'être ministre des Finances pendant 15 ans.
Voilà.
Ouais. Vous pensez qu'il restera une trace de Giscard dans l'histoire de France ou pas, Catherine?
Écoutez, pour ceux qui aiment l'histoire, oui. Pour les jeunes générations, je ne sais pas. En tous les cas, c'est quelqu'un qui... l'avortement, l'autorisation de l'avortement, c'est lui. Les premières allocations pour les femmes célibataires, c'est lui. C'est et puis l'Europe, sur le terrain européen. L'élection du Parlement européen, suffrage universel, c'est lui qui l'a imposé aux Européens. La nouvelle constitution européenne, c'est lui. Enfin, sur le plan européen, c'est des choses qui resteront. Au plan intérieur, c'est quand même la première fois qu'un homme était élu avec cette chance, alors qu'il était loin d'être majoritaire et qu'il a réussi par son talent.
Merci Catherine Ney d'avoir accompagné ce milieu d'après-midi sur Europe 1. Europe 1 a bien de la chance de vous avoir, d'avoir cette mémoire-là.
Faites-le savoir.
Je viens de le faire savoir, Catherine.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.